Radio Kapi. Les informations avec Billy Yvon Lutumba. Parlons en ouverture de ce journal de la situation peu reluisante des plus de 75 000 déplacés fuyant les atrocités des milices armées dans le territoire des Djougou. Ils sont pour la plupart concentrés à Roué sans moyen de survie. À suivre également dans ce journal, cette hausse du prix du sac de ciment signalé à Kindu dans la province du Maniema. Le sac de ciment est passé à 50 $. Le directeur provincial de la régie des eaux Kinshasa intervient en fin de cette édition comme invité. Il parle de la fin des travaux de construction de l'usine de la régie des eaux de Biza aux zones. Restez avec nous sur cette fréquence pour suivre les autres aspects de l'actualité congolaise. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À Ituri, plus de 75 000 déplacés pour la plupart des habitants qui ont fui les récentes atrocités des groupes armés sont concentrés sur le site des Roé dans le territoire des Djougou. Selon des sources concordantes, ils ne peuvent pas sortir pour chercher des vivres pour se nourrir à cause de la présence des miliciens de la Codeco qui ont assiégé la zone. Deux déplacés qui se rendaient au champ ont été tués mardi par ces hommes armés. Ces personnes qui manquent de tout n'ont également pas accès aux soins médicaux, comme nous le dit Isaac Remoyope.
Les sites des déplacés d'Héro abritaient environ 35 000 personnes avant l'attaque des dimanches des localités de Drodro, Djissa, Blukwa et Largo par les miliciens de la Codeco. Les habitants de ces entités ont trouvé refuge dans ces sites qui comptent désormais environ 75 000 personnes, dont des malades de l'hôpital de Drodro qui ont été évacués par des casques blés de la MONUSCO. D'autres villages proches des zones de combat, notamment Logo et Tse, sont également vidés de leurs occupants. Tous ces déplacés vivent dans des conditions difficiles, pas des vivres ni des médicaments, encore moins des matériels essentiels comme des nattes et des couvertures. Ces déplacés ne sont pas libres de leur mouvement à cause de la présence des miliciens de la Codeco qui ont tué mardi deux hommes qui voulaient se ravitailler en vivres au village de Lera. Le président des jeunes du site d'Héro lance une alerte au gouvernement et aux humanitaires.
Nous demandons l'assistance urgente puisqu'il n'y a pas moyen vraiment. Nous pouvons menacer de passer dans le village environnant.
Certaines ONG internationales dont MEDER et Médecins sans frontières assurent les soins d'urgence de certains déplacés sur les sites d'Héro, où FRDC et Casque Blé ont renforcé leur position. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
10 enfants dont l'âge varie entre 13 et 17 ans ont été remis ce jeudi par les FRDC à la MONUSCO Beni. Ces mineurs font partie des personnes arrêtées à Butembo la semaine dernière lors des opérations de bouclage menées par l'armée congolaise. Ces enfants ont été remis à la section protection de l'enfant de la MONUSCO Beni. Capitaine Anthony Mwalusha et porte-parole des FRDC explique le contexte au micro de Sadiki Aboubakar.
Vous êtes sans ignorer que Butembo a vécu pendant un moment d'insécurité et pendant nos opérations de bouclage, nous avons arrêté les maïmaï majeurs et aussi les maïmaï mineurs. En tant qu'armée régulière respectueuse de loi, nous avons appelé la MONUSCO pour protéger sincèrement ces enfants, savoir comment les gérer et les retourner dans la société, leur famille. Alors, aujourd'hui, en tant que partenaire MONUSCO, c'est un grand jour parce que à chaque fois que nous récupérons, que ce soit les otages des ADF MTM, que ce soit les mineurs, nous remettons, mais aujourd'hui nous remettons encore entre vos mains les enfants mineurs. Alors cela montre vraiment que FRDC est respectueuse des lois et des droits des enfants.
Bernard Okanda, officier de la section protection de l'enfant de la MONUSCO à Beni, affirme que ses enfants seront directement orientés auprès d'une organisation partenaire de l'UNICEF en vue de leur prise en charge psychologique avant de les retourner dans leurs familles respectives. Dans la même province Nord Kivu, des violents combats ont eu lieu mercredi à Murimbi et Mudugu entre les rebelles du M23 et les combattants de la milice du collectif des mouvements pour le changement CMC dans le groupement de Tongo dans la chefferie de Bwito. Les sources dans la zone parlent des attaques sporadiques de cette milice contre les positions des rebelles depuis l'occupation des villages de Murimbi, Rusekera, Shoni et Mudugudugu par la rébellion il y a quelques semaines. Le point avec vous, Innocent Fadini.
Ces combats à l'arme lourde ont commencé aux environs des 11h et ce n'est qu'à 13h locales que les armes se sont tues à Mirimbi où les combattants de la milice et du collectif des mouvements pour le changement CMC sont allés attaquer l'une des positions du M23 dans ce secteur. Quelques heures après, les mêmes combattants sont allés également attaquer la position des rebelles à Mudugudugu, le village de Kavumu, dans la localité de Bushili, toujours dans le groupement des Tongo. Les témoignages concordants précisent que ces combats sporadiques surviennent souvent lorsque les rebelles tentent de contourner les positions tenues par ces combattants pour couper la route Kichanga-Goma, la seule voie qui relie aujourd'hui Goma à la partie nord de la province. Toujours sur le front nord, plusieurs sources à Kiwanja affirment l'arrivée hier mercredi des renforts du M23 à Kinyandoni dans le groupement des Bukoma et à Kiseguru, voisin, dans le groupement des Binza. Ils ont détruit hier toutes les récoltes de la population trouvées dans leur champ. Ils les soupçonnent de collaborer avec les combattants des FDLR actifs dans cette zone. Dans le front sud, la société civile de Nyiragongo a constaté dans la nuit d'hier mercredi des colonnes des hommes armés vêtus en uniforme de l'armée rwandaise. Ces derniers ont traversé en RDC par le groupement des Buhumba et se sont dirigés dans la direction du parc national de Virunga.
Parlons de cet incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré la nuit dernière au marché d'Imayangose dans la ville de Beni. Selon des sources sur place, c'est vers 1h ce matin que cet incident s'est produit, réduisant ainsi en cendres toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Les marchands regrettent les pertes occasionnées par ce sinistre. De son côté, la population dit craindre la hausse des prix de certains produits de première nécessité. Le Conseil urbain de la jeunesse de Beni invite le gouvernement congolais à venir en aide à la population. Guylaine Cassias a été sur place, voici son reportage.
C'est un sentiment de désolation qui s'est lisé sur le visage des habitants et vendeurs du marché Mayangose ce matin, où un incendie d'origine jusque-là inconnu a presque tout réduit en cendres la nuit dernière. Ce matin, ces vendeurs tentent de sauver le reste de leurs marchandises, mais avant, larmes aux yeux, une vendeuse de légumes qui a tout perdu affirme ne pas savoir à quel sens se vouer.
Je ne sais plus comment faire scolariser mon enfant finaliste. Il a raté l'année passée. J'ai fait tout pour qu'il reprenne. Et avec ça, que vais-je faire? Je vends des légumes ici au marché de Mayangose. Comment vais-je encore subvenir aux besoins de mes enfants?
À ce côté, un homme propriétaire d'un moulet dans ces marchés aussi essentiels qui n'a fait que fondre à larmes. Il est temps que le gouvernement congolais vienne au secours à la population de Beni qui vient de connaître une autre forme de massacre, fait savoir pour sa part d'Alzomi Kundi, président du Conseil urbain de la jeunesse, se rencontrer sur les lieux de drame.
C'est une désolation la plus totale de voir que les greniers de la ville de Beni viennent d'être incendiés. Voilà pourquoi nous supplions même le gouvernement congolais de suppléer la vie pénible de la population de la ville de Beni.
Et dans la foulée, un autre habitant recommande au gouvernement et particulièrement la ville de Beni de penser à capitaliser les taxes perçues auprès des assujettis pour mettre en place des dispositifs de secours en cas d'incident. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Revenons sur cette actualité du Kassai avec le pont qui s'est écroulé après le passage d'un camion mardi dernier sur la rivière Lovua dans le secteur de Bapende. Les personnes à bord sont disparues sauf le convoyeur qui s'est sauvé. Aucune trace retrouvée jusqu'alors rapporte les autorités de la province. Selon des sources locales, la destruction de ce pont risque de créer une pénurie des produits agricoles à Chikapa. François Kadima nous en parle.
Le pont qui s'est effondré situé à une quarantaine de kilomètres de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Cette voie est une route des dessertes agricoles. Elle relie la ville au secteur de Bapende et mène également jusqu'en Angola. Des sources locales rapportent que différents produits des champs proviennent de ce côté pour approvisionner le centre de la province du Kasaï, surtout pendant cette période de récolte. Avec l'effondrement de ces ponts, la voie est coupée et il y a risque d'une pénurie à Chikapa. Cela peut occasionner la hausse de prix, surtout qu'environ 30% des produits alimentaires proviennent du secteur de Bapende, expliquent les mêmes sources. Pour les habitants de la ville de Chikapa, les autorités doivent prendre cette situation à cœur et remettre rapidement un autre pont sur la voie pour faciliter les passages. Cette situation ne touche pas seulement le secteur de Bapende, mais aussi celui de Lovualushiku. À la période de cueillette de chenilles appelée communément Masamba, les consommateurs s'approvisionnent à partir de ce coin, indique la population. Entre-temps, les autorités au niveau de la province indiquent s'activer pour retrouver les personnes disparues lors de l'effondrement du pont. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans le Maniema, le tronçon routier Muyengo-Kailo n'est plus praticable. Le député provincial élu de ce coin qui alerte parle d'un calvaire que vivent les usagers de cette route. Bouchiri Makula Corneille appelle à l'implication du gouverneur intérimaire de province. Il tend aussi la main aux hommes de bonne volonté et au gouvernement pour venir en aide aux personnes dont les maisons se sont écroulées à la suite des eaux de jaillissement dans cette région. Bouchiri Makula Corneille revient ici sur sa demande au micro de Florence Kizalunga.
Muyengo-Kailo, c'est plus qu'un calvaire. Je sollicite du gouverneur une intervention urgente par rapport au bourbier qui vient de se créer à Kampala, à 11 km sur la route Kalima. Là, moi-même, j'ai vécu comment les gens sont en train de souffrir. Et c'est comme ça que quand j'ai suivi ce qu'ils venaient de décider par rapport vers Shenge et à Saint-Paul et raccourci à Lungouli, je voudrais à ce qu'ils décident la même chose pour Kampala pour arriver à trouver une solution urgente par rapport à ces bourbiers. Mais ce que j'ai encore constaté, c'est le phénomène écroulement des maisons par l'eau de jaillissement. J'avais déjà déclaré cela pour Ngoli, Kitibitibi, Yengola et même Ngoma et Lila. Maintenant, c'est à Boulangi et à Nyoka. À Boulangi, j'ai même vu là où l'eau stagne, presque comme un lac. À Nyoka, c'est toute l'avenue Pangi, presque une soixantaine de maisons qui s'écroulent par l'eau de jaillissement. Donc, j'interpelle les hommes de bonne volonté, les gouvernements à venir en aide à ces pauvres sinistrés qui ne savent plus où est-ce qu'ils peuvent passer la nuit avec leur famille et consorts.
Et cette problématique du mauvais état des routes est à l'origine de la hausse du prix du ciment à Kindu. Un sac de ciment se négocie actuellement à $50. Selon certains fournisseurs, l'enclavement et l'impraticabilité des routes de cette province sont les causes majeures de cette hausse de prix. Les constructeurs haussent le ton car leurs maisons restent inachevées. Ils disent encore être abandonnés par les autorités qui ne disent rien à ce sujet. À Kindu, Florence Kizalunga.
Construire à Kindu ces derniers temps devient un casse-tête. C'est depuis 2 mois que le prix des ciments a doublé. Désemparés, certains constructeurs se disent obligés d'abandonner leur chantier.
Il n'y a pas 2 mois, on achetait un sac de ciment à $20-25. Mais aujourd'hui, un sac de ciment coûte $50. Il y a des chantiers qui sont en cours, que nous sommes en train de construire pendant cette saison de pluie. Mais chose déplorable, regrettable, les autorités ne disent rien à ce sujet. Acheter un sac de ciment avec cette ville de Kindu à $50, mais c'est compliqué. Conséquence, il y aura des maisons qui vont s'écrouler parce que nous sommes dans la saison de pluie. Nous sommes vraiment désolés, abandonnés, délaissés, ne sachant plus à quel sens se vouer.
Les fournisseurs de leur côté évoquent le problème de route. Justin Kabasel Kadjamba.
Aujourd'hui, les sacs de ciment coûtent à $50. C'est par rapport des routes. Les routes qui compliquent. Les ciments que nous avons ici à Maniema, il y a des routes. Il y a les ciments de Kisangani et les ciments aussi de Kalemé. Vous pouvez aller à Kalemé acheter les ciments. Par exemple, au mois de janvier, comme on est janvier aujourd'hui, vous allez retirer au mois de décembre que les autorités puissent arranger les routes, voire même les chemins de fer.
L'unique espoir pour la population reste le programme de développement des 145 territoires, mais qui traîne encore les pas, se plaignent, se comme commerçants. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Lancement samedi 14 janvier prochain à Kinshasa du projet d'identification des personnes atteintes de la maladie de la peau appelée vitiligo. Une démarche de l'association franco-congolaise de vitiligo créée par Huguette Kalinga. Objectif, sensibiliser la population sur cette maladie et lui proposer les médicaments. Écoutez Huguette Kalinga au micro de Kelly Yoka.
L'association a prévu cette activité, c'est pour éveiller d'abord la conscience de la population, vu que le vitiligo est moins connu par la société congolaise, raison pour laquelle nous avons prévu cette activité de réveiller d'abord la conscience de personnes, donc de la population, qu'il y aura un lancement du projet OE de l'identification de personnes atteintes du vitiligo. Non, pour l'identification, nous sommes en train de travailler en collaboration avec Vodacom, dans lequel Vodacom va mettre sa technologie à notre disposition. Donc, c'est-à-dire, il va créer un lien. Le lien va contenir plusieurs questionnaires dans lequel les liens sera diffusé, publié de partout, la radio, la télé, plateformes, réseaux sociaux, appels gratuits, messages gratuits, et les gens vont s'inscrire facilement à travers le lien que Vodacom va publier.
Actualité internationale.
Ce mercredi à Lagos, ils étaient des centaines à venir chercher leur carte d'électeur avant les élections. La date limite est fixée au 22 janvier et en décembre, la commission électorale a fait savoir qu'environ 6 millions de Nigériens n'avaient pas encore retiré leurs cartes qui leur permettront de voter notamment à la prochaine présidentielle prévue en fin février. Charles Bli Goudé, pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a affirmé mercredi qu'il comptait gouverner la Côte d'Ivoire un jour après avoir été acquitté par la justice internationale et être rentré dans son pays.
L'invité.
Les travaux de construction de la nouvelle usine de régie des eaux située à Binza Ozone dans la commune de Ngaliema ont pris fin depuis quelques semaines. C'est le directeur provincial de la régie des eaux qui donne cette information. Raymond Matundu affirme que cette nouvelle usine est pour le moment en période d'essai. Elle devra ravitailler la partie ouest de Kinshasa et permettre aussi de réduire le déficit en eau potable dans quelques autres communes comme Bantalungwa. Raymond Matundu s'entretient avec Priscille Kabuya.
Monsieur Raymond Matundu, bonjour.
Bonjour, madame.
Quel est l'état d'avancement de travaux de l'usine de Binza Ozone?
Merci pour la question. Nous pouvons vous dire aujourd'hui, le module 1, la nouvelle usine de l'Ozone, le module 1 qui est de 110 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, nous sommes pendant la période de test. Donc, nous pouvons dire à ce stade que la première phase est presque terminée. Nous sommes presque au dernier réglage où on est en train de faire les essais chaque jour pour voir le comportement, comment l'usine fonctionne déjà et comment les réseaux se comportent par rapport à ces nouveaux flux. Alors, nous pouvons dire à ce stade que la première phase est presque terminée. Chaque jour, nous fonctionnons de 8h à 18h, du moins la semaine... jusque vers le 15 et le 16, on va maintenant fonctionner 24 heures sur 24 heures pour voir comment l'ouvrage se comporte et comment les réseaux aussi fonctionnent par rapport à ces nouveaux flux que l'usine de l'Ozone emploie. Donc, à ce stade, l'usine fonctionne déjà très, très bien.
L'usine est appelée à servir combien d'habitants?
Bon, si je peux dire en termes de zone, l'usine va desservir plus la partie ouest de la ville. Mais il y aura de la ville, quand je parle de la partie ouest, je vois Ngaliema, je vois Ozone, je vois ma campagne, je vois Montfleury, je vois Météo, je vois l'IPEN, je vois aussi... une partie de la cité verte. Donc, cette usine va desservir toute cette partie-là, même Malweka, vers Moudi. Il y aura aussi l'influence de cette usine-là. Et il y aura aussi une partie, donc la zone d'influence va se manifester même jusqu'au niveau de Kitambo, même Bandal. Parce que l'eau qui venait de l'usine de Ngaliema, qui transitait par Kitambo pour aller jusque dans la partie ouest, cette eau-là ne va plus aller là-bas. Donc, ça va améliorer sensiblement la desserte aussi dans la partie centre de la ville. C'est-à-dire, quand je dis partie centre, je vois ma campagne, entre ma campagne, je vois Pantenganda, je vois Bandal aussi, même Diengiel aussi. Donc, il y aura vraiment une grande influence dans toutes ces parties-là.
Monsieur Raymond, quand est-ce que la population pourra réellement bénéficier de cette eau?
Bon, normalement, si tout va bien, l'inauguration aura lieu ce mois ici, au mois de janvier ici. Je crois dans les jours qui viennent, on va vous dire officiellement la date de l'inauguration. Mais l'usine est déjà, ça fonctionne déjà. Donc, au mois de janvier, ici, on va vous communiquer la date. Donc, ce n'est plus pour longtemps. C'est juste question de jours. C'est pourquoi, comme je vous ai dit au début, là, nous sommes en train de faire déjà les essais de fonctionnement, voir comment les machines fonctionnent, comment les ouvrages de traitement se comportent, et ainsi de suite. Nous avons commencé d'abord par de 8h à 18h chaque jour. La semaine prochaine, nous allons maintenant passer 24h sur 24h. Et à l'issue de ça, je crois qu'on va vous dire quand est-ce que l'usine sera inaugurée. Mais tout ce que je sais, ça sera ce mois ici, le mois de janvier.
Merci, monsieur Raymond.
Merci, madame.